Eh bien, je dis bien l'histoire des personnes noires. Je trouve ça important parce que beaucoup de gens associent cette connotation-là. Parfois, ça peut être un peu raciste. Alors, je préfère utiliser que la personne, elle est de couleur noire, si on peut se dire, génétiquement parlant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Et comme ça, je pense qu'on identifie la personne d'abord et avant tout comme étant une personne. Alors, je vous ai dit qu'à l'émission, on utilise le plus possible le langage non-genré, le langage non opprimant. Alors, c'est une façon de le faire. Je voulais donc vous dire qu'on parle de l'histoire des personnes noires. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Mais vous sachez que dans les expéditions de Pierre Dugas, sieur des Monts, hein, ça vous dit peut-être quelque chose, c'était la personne qui était vraiment, qui organisait l'expédition, mais la grande star, c'était Samuel de Champlain qui était à bord. Eh bien, sachez qu'avec eux, il y avait une personne noire, Mathieu d'Acosta. Puis d'ailleurs, on croit même qu'il était queer. On croit même, ça s'est pas encore démontré, mais selon certaines personnes, il aurait été queer aussi. Donc, hein, on date d'il y a longtemps. Alors, je vous rappelle que chaque février, car même si Canada Post a fait, Post Canada a fait en 2017 un timbre à l'effigie donc de ce Mathieu d'Acosta, ben je le rappelle parce que des fois les gens pensent qu'on a les personnes noires, c'est l'immigration récente. Non, non, c'était là bien au départ du Canada. Alors, en ce mois de l'histoire des personnes noires 2024, il y a des réalités donc pour les personnes noires et qui sont queer. Et j'ai pensé réinviter une personne que j'aime beaucoup, Chloé Saint-Esprit. Salut Chloé!
Allô Denis, bonjour
Alors,
tout le monde.
Chloé est diplômée en administration, communication et négociation à Paris, ancienne artiste en danse, entrepreneur culturel, finissante du DESS en gestion au HEC de Montréal. Chloé est stratège en équité, diversité et inclusion, EDI. C'est important ces personnes-là parce qu'elles nous aident beaucoup à voir ce qu'on oublie dans l'inclusion, dans l'équité et la diversité. Et elle a une solide expérience en gestion de projet, que ce soit en management au Canada, en France et même au Cameroun. Wow!
Oui.
Alors, bienvenue à l'émission.
Merci,
Et on
Denis.
utilise toujours
Les pronoms iel, sitim, absolument.
et les accords féminins où on se promène d'un à l'autre, c'est ça?
Bah, en fait, on peut garder le conférencier, conférencière, par exemple,
Oui.
et iel pour me nommer au
Oui.
troisième.
Je vais te demander d'approcher du
Bien
micro.
sûr,
Oui,
mais oui.
voilà. Alors, c'est quoi ce fameux mois de l'histoire des Noirs? Commençons là.
Alors, déjà, bon, on va rentrer un petit peu. Déjà, je voulais souligner une chose. Merci de personnaliser, en fait, les communautés en disant personne noire et non pas la communauté. On pourrait même dire les communautés noires. Donc, je voulais juste souligner ça. Puis, on ne peut pas parler du mois de l'histoire des Noirs sans parler d'histoire, je pense, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a un long processus qui s'est mis derrière et pourquoi aujourd'hui ça rayonne. Tout simplement, avant de commencer, j'aimerais juste souligner quand même le décès de Dexter Scott King, qui est le fils de Martin Luther King,
Oui.
en début d'année 2024. Donc, de ce contexte-là, je trouvais que c'était approprié. Puis, en fait, le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout simplement pour reconnaître que les communautés ou les personnes issues des communautés noires ont contribué, en fait, à l'histoire du Canada, à l'histoire des États-Unis. Et même l'ONU, en fait, a reconnu une journée internationale des personnes d'origine afrodescendante, juste pour reconnaître leur contribution, en fait, dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a une petite histoire, ce que tu as parlé justement de Monsieur d'Acosta.
Oui.
En fait, il y a quand même un contexte, ça vient des États-Unis, hein, on ne va pas se le voiler. Étant donné qu'on est à côté des États-Unis, ben, le Canada et le Québec sont impactés un petit peu par ce qui se passe là-bas. Donc, ça commence en 1926. C'est l'Américain Carter J. Woodson qui, en fait, instaure cette semaine. Au début, c'était une semaine. Mais c'était bien sûr dans le milieu universitaire, parce qu'il voulait voir un petit peu plus de représentativité dans les manuels scolaires. Suite à ça, ça a un peu migré justement vers le Canada. Et pourquoi aussi le choix du mois de février? Parce que justement, des personnes publiques et même politiques comme Frédéric Douglass, Abraham Lincoln, en fait, qui ont été des alliés aux causes noires, tout simplement, c'était leurs anniversaires, étaient en février, donc ça corrélait bien. Puis suite à ça, au Canada, bon, il y a eu quand même l'Ontario Black History Society, qui a été fondée en 1978 et qui a un peu ramené ce projet-là au Canada. Et bien sûr, en 1995, Jean-Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement, quand même 1995, elle avait officiellement adopté à la Chambre, par la Chambre des communes, justement, qu'on instaure ce mois de l'histoire des Noirs ici. Puis il est vraiment célébré au Québec depuis 2007. Donc c'est encore très, très frais, très récent.
D'accord. Et pourtant, nous avons une fait d'importantes communautés S noires au Québec, là. Parce que les gens associent beaucoup aux personnes haïtiennes, mais il y a des personnes d'un peu partout qui ont la peau plus foncée. Et voilà. Je pense qu'on va aller à la prochaine question. Pourquoi c'est important, Chloé, de faire connaître et de reconnaître la contribution des personnes afrodescendantes à l'histoire et la culture du Canada?
Parce que invisibiliser des personnes ou des personnes appartenant à une communauté, un peu comme avec les personnes autochtones, c'est comme nier un peu l'histoire, les effacer de l'histoire. Et donc, même au niveau identitaire, est-ce qu'elles arrivent à se retrouver après dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui? C'est compliqué. Et en plus, quand il y a des obstacles systémiques qui sont nés de tout ça, ça complique un peu les choses. Donc, je pense que c'est un devoir en tant que pays qui a été colonisé de reconnaître toutes les personnes qui ont contribué, comme les vagues d'immigration, ça peut être les Irlandais, mais dans le cadre, en fait, des personnes autochtones et des personnes noires, tout simplement de se dire qu'elles ont contribué à le pays tel qu'il est aujourd'hui, et donc de les accepter, de les intégrer dans nos manuels, de les intégrer dans nos sphères de décision aussi.
Je veux dire quelque chose que les gens vont peut-être être surpris d'apprendre, mais les communautés noires et autochtones ont été au premier plan dans l'histoire des mouvements des droits LGBTQ+. Hein, puis il y a peu de gens qui le savent. Et en étant autocritique, est-ce qu'on peut dire finalement que de ne pas reconnaître ça, ça démontre qu'il y a peut-être un petit peu de racisme systémique dans nos communautés queer?
Est-ce qu'on en parle? Oui. Ah. Donc, absolument. Ne serait-ce que, par exemple... c'est très délicat parce qu'il y a des associations qui œuvrent justement pour les droits LGBTQ+. Et ce qui est délicat, c'est qu'on oublie d'où viennent en fait les mouvements queer, d'où viennent. Et souvent, encore une fois, ça a été invisibilisé. Donc, c'est comme si on gardait une vérité cachée. Mm-hmm. Je vais prendre l'exemple justement de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Beaucoup d'associations ou d'organismes en parlent, mais on ne sait pas d'où ça vient réellement. Et figurez-vous que ça vient d'un chercheur qui s'appelle Louis George Tin, ou Tin, qui a créé, en fait, c'est un universitaire, il a créé cette journée, puis on se l'a réapproprié un peu. Donc, il faudrait juste rendre César ce qui est à César pour souligner qu'il y a encore des enjeux. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a encore probablement du racisme systémique. Et quand on pense aux personnes gays ou aux personnes queer, aux personnes qui font partie des communautés LGBTQ2IAS+, mm-hmm. on voit une personne, on le voit même quand on va à la Pride, souvent ce sont des personnes blanches qui sont sur ces chars et on a du mal en fait à se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres réalités. Et quand on parle de personnes LGBTQ+, on devrait rajouter, tu sais, la couche intersectionnelle, le racisme, l'homophobie, etc. Donc, il faut faire un travail, je pense, dans nos communautés pour reconnaître, encore une fois, d'où viennent les mouvements queer, comme le Riot, excuse-moi.
Le
Stonewall.
Ben oui, j'allais justement
poser la question. C'est ça où j'allais en venir.
Oui.
Stonewall, justement, on est dans cette dynamique-là. Justement, ça partait des communautés trans, afrodescendantes, et ça a dérivé tranquillement dans les communautés blanches.
Alors finalement, ça nous amène à parler que les personnes noires sont toujours encore victimes de racisme et notamment de micro-agressions raciales. Et là, je sais, si j'étais Québécois radio, probablement je me ferais jeter dehors, mais en tout cas, on va le dire, des micro-agressions raciales. Comment les organisations là, peuvent-elles mettre fin à ces agressions que subissent leurs employés? Là, je m'adresse à la personne qui est en EDI.
Absolument. Oui. C'est mon travail. Donc en fait, c'est un processus. Souvent... je dirais que l'EDI, et je rajouterais même le EDIA pour accessibilité, rajouterais, tu sais, la notion d'antiracisme et d'octonisation qui sont deux concepts complètement différents. Donc, dans les organisations, c'est toujours complexe parce qu'on voit un peu l'EDIA comme une gestion de projet. Sauf qu'on est dans un changement de culture, on est dans la culture organisationnelle, donc il faut vraiment rassembler toutes les personnes. Donc, comment on peut faire? C'est tout simplement déjà de se poser la question et de faire un peu comme une réflexion stratégique en se disant pourquoi on veut le faire? Qui est-ce qu'on veut inclure dans la réflexion? C'est quoi l'objectif long terme? Est-ce que c'est juste le recrutement? Mm-hmm. Parce que souvent, dans les organisations, quelle que soit leur taille ou leur secteur, Ce sont les RH qui se retrouvent avec ça sur les épaules. Mais il y a une responsabilité en termes de leadership aussi, dans la gouvernance, de changer les mentalités. Donc, on peut faire des politiques parce qu'il y a la loi, on s'entend, il y a quand même une loi, la Commission de droits de la personne, droits de la jeunesse, la Charte des droits de la personne qui interdit et qui punit toute discrimination envers les personnes. Sauf que dans la réalité aussi, dans les organisations, comment on peut faire pour prolonger cette loi et notamment sensibiliser en fait toutes les personnes à tous les niveaux de l'entreprise ou de l'organisation pour justement éviter ces microagressions. Donc, on passe par une étape de sensibilisation. Après, on peut passer par je dirais, des étapes un peu plus équitables au niveau de l'équité, l'équité salariale, les politiques en EDI, puis après un plan d'action.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais heureusement, je
Absolument.
pense qu'il y a de la bonne volonté. On va rester
Absolument.
optimiste quand même. Mais j'aimerais terminer cette entrevue sur une question parce qu'on l'entend souvent, cette question-là. Pourquoi vous avez encore besoin, hein, de la fierté? Pourquoi donc la présence d'un mois commémoratif? Je vais citer l'acteur Morgan Freeman qui a déclaré dans une entrevue: Mais je ne veux pas d'un mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire américaine. Est-ce qu'un mois de l'histoire des Noirs peut malheureusement favoriser peut-être l'exclusion en se disant, plutôt que l'inclusion en se disant, ben là c'est le mois de l'année, on parle d'eux autres, puis après ça on n'en parle plus, genre, je sais
Bah,
pas.
c'est justement ça, et c'est ça où il y a le rôle des institutions. Donc, si je reprends un petit peu la question que tu as posée juste avant, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont frappants. Il y a un rapport de Randstad qui est sorti le 2 février 2023, ce qui est extrêmement récent, qui mentionne que la majorité, donc soit 77% des Canadiens racisés, admettent s'attendre à faire part à de la discrimination au travail. Donc, cet enjeu-là, il est encore dans nos organisations. Et pour faire le lien avec Morgan Freeman, où c'est là où il y a cette complexité. En tant qu'organisation, est-ce que tu te dois de souligner le mois de l'histoire des Noirs? Et si tu le fais, de quelle manière? Est-ce que tu investis les personnes ou tu impliques les personnes noires? Ou est-ce que tu prends ta responsabilité en tant que leader et allié pour organiser et reconnaître, sachant que c'est un long process et qu'il n'y a pas juste un mois? Il y a 12 mois dans une année. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les 12 mois en termes de promotion, d'avancement? Est-ce que ton leadership est diversifié, etc. Donc, c'est plein d'actions à
Un
mettre en
peu comme
place.
on reproche aux gens de faire du pinkwashing, ils mettent le petit drapeau de la fierté pendant le mois de la fierté, fierté, et parfois on n'entendra plus parler. J'ai juste quelques secondes qui restent,
Oui,
mais je
on prend
voudrais
les
amener
secondes.
quelque chose. Que représente et signifie? Et là, c'est vraiment une grosse question,
Ah, Seigneur.
l'intersectionnalité.
Hey, toi.
Ouais.
Intersectionnalité, est-ce que tu veux savoir c'est quoi ou est-ce que tu veux que tes auditeurs, auditrices
Une bonne idée
aient
de ce
une
que
bonne
ça.
idée de l'intersectionnalité? Pour faire sweet and short, en fait, l'intersectionnalité, c'est quand, par exemple, on est une personne racisée, donc on peut subir du racisme. Et ensuite, on est par exemple, une personne queer ou appartenant aux communautés LGBTQ+, on va subir de l'homophobie. Si on est une personne issue de l'immigration, en plus, on peut subir de la xénophobie. Donc, c'est toutes ces additions, en fait, d'oppression qui vont faire en sorte que l'intégration d'une personne en entreprise ou dans une organisation ou dans une structure va être beaucoup plus compliquée.
Et ça explique pourquoi on doit parler de l'histoire, du moins de l'histoire des personnes noires dans nos communautés, parce qu'il
Absolument.
y a vraiment de l'intersectionnalité, puis et ça
Absolument.
s'accumule.
Absolument.
Chloé, c'était un plaisir.
Toujours un plaisir, Denis.
Merci
Merci.
d'avoir été là. Chloé Sainte-Marie. Chloé Sainte-Marie, ça va bien.
Je
Chloé
chante pas, je
Saint-Esprit.
chante pas.